Ապրում ենք մենք բայց ուրախ չեն, բայց դե ինչու մենք չգիտենք, մենք չգիտենք որով է դե, բախտ մեզ համար թշպախտ է դե. Ապրում ենք մենք բայց ուրախ չեն, բայց դե ինչու մենք չգիտենք, մենք չգիտենք որով է դե, բախտ մեզ համար թշպախտ է դե. Ասա Աստված ու մեղքը մեր, ինչու այսպես տանչում ես մեր. Ապրում ենք մենք բայց ուրախ չեն, բայց դե ինչու մենք չգիտենք, մենք չգիտենք որով է դե, բախտ մեզ համար թշպախտ է դե. Ապրում ենք մենք բայց ուրախ չեն, բայց դե ինչու մենք չգիտենք, մենք չգիտենք որով է դե, բախտ մեզ համար թշպախտ է դե. Ասա Աստված ու մեղքը մեր.
Marseille, Sénégal, Sénégal, Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique. Animé par Lamine et Richard.
Bonjour à tous et bienvenue sur le 88.4 de la bande FM Radio Galère. et le www.radiogalère.org, ainsi que la radio numérique, le DAB Plus Canal 8C. C'est votre émission Le Plateau du Sénégal qui commence comme tous les samedis, 11h, 12h30 avec Lamine et Richard. Venez discuter, dialoguer avec nous, échanger aussi au 04 91 08 28 10 et 04 91 08 28 10.
Ismail alelo sel yak nuñu wayal jom sek baba ma ber uza xalum du yak nañu beug xar bay ma jagam ni kine mom bamba yaay daru bay ma jojo sodom mom faale way sorano yak ngeen ñu beugal telere banja gambay sedina esa yande kodu yalla yalla kharle dem ajana.
Merci beaucoup Richard, bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Nous sommes très heureux, comme on le fait tous les samedis, d'être avec vous ici jusqu'à 12h30, c'est ça, voilà, jusqu'à 12h30 pour échanger, dialoguer, discuter. Venez user et utiliser votre liberté d'expression comme vous avez envie. Voilà, ici c'est une radio libre, vous pouvez vous exprimer comme vous voulez. L'essentiel, c'est tout simplement de respecter en tout cas les personnes qui nous écoutent, de respecter les auditeurs, mais sinon la parole elle est libre. Donc aujourd'hui nous allons parler de football. Actualité footballistique oblige, la plus grande compétition africaine a commencé hier avec l'entrée en matière de l'Égypte, pays organisateur, qui a gagné son premier match très difficilement. Et aujourd'hui, il y en aura d'autres matchs. Et pour en ce qui nous concerne dans l'émission Le Plateau du Sénégal, nous parlerons de l'équipe nationale du Sénégal qui va commencer son match donc dimanche face à la Tanzanie et après l'Algérie et le Kenya. Ça, ce sera en première partie. Nous aurons aussi donc un de nos auditeurs, Ousmane Seck, qui a envie d'envoyer un message très fort à l'ambassade de France au Sénégal pour les problèmes de visa, des joueurs qui devaient venir, il y avait tout ce qu'il fallait. Et encore une fois de plus, l'ambassade de France a refusé à tous ces jeunes de mettre les pieds ici en France. Et puis, nous essayons d'avoir des sportifs de haut niveau pour nous parler de cette CAN. Et puis, en deuxième partie, et j'espère qu'aujourd'hui je l'aurai, c'est Baba Aïdara. Voilà, donc Baba Aïdara, on va l'homme par qui le scandale est arrivé, hein, parce que c'est lui qui a tout dit dès le mois de juillet 2012. Baba Aïdara a commencé à nous dire « Attention, il y a de la corruption au Sénégal, il y a des voleurs au Sénégal, le pétrole est entre les mains d'une certaine mafia au Sénégal. » Donc, nous parlerons donc de toute cette mafia autour du pétrole. Et puis, si je regarde la sortie théâtrale du procureur de la République du Sénégal, ou bien qu'on aurait dit que le président de la République du Sénégal, lui-même qui a commandité un rapport, il ne l'a jamais reçu. Ou bien le petit frère du président de la République qui dit qu'il n'a jamais reçu 146 millions donc dans son compte. Et le conseiller du président de la République en personne, M. Kassé, dire non, 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 il a bien reçu les 146 millions, mais ce n'était pas un pot de vin, c'était par rapport à un travail. Non, mais un cafouillage au sommet de la République du Sénégal. Mais je pense qu'à un moment donné, il faudrait qu'on arrête de nous prendre pour des bananes. Il faudrait qu'ils arrêtent d'insulter notre intelligence. Arrêtez un tout petit peu, c'est un cafouillage monstre. Vous dites du tout et du n'importe quoi. Un très proche du président de la République, Farbangom, je ne sais pas s'il est député ou maire, si il est maire en tout cas, j'en suis sûr, qui dit que j'accepte que j'ai été corrompu, j'ai reçu de l'argent, mais je n'étais pas seul, j'étais avec le ministre Tierno Alassane Sall. Mais dans quel pays on est? Et le procureur, il laisse passer, non? Le procureur, il va demander un appel à témoins, il ne les a pas vus. Mais c'est quoi ce pays-là, ce Sénégal? Mais bon, en tout cas, quand on a vu les images, Richard, hier, le Sénégal n'avait rien à envier à ce qui se passe aujourd'hui en Chine, ce qui se passe en Géorgie, en Algérie. Les Sénégalais sont sortis en masse pour dire non à la corruption. Quand j'ai vu les images sur Centenaire, Gibraltar, ah non, j'avais la chair de poule, quoi. On avait juste envie d'y être. Tous les jeunes Sénégalais étaient dehors. Et c'est ce Sénégal-là qu'on a envie de voir. Et pacifiquement. Mais bon, écoute, Richard, en attendant d'aller au Sénégal, j'aimerais quand même qu'on parte aux îles Comores parce qu'il y a eu un crash, quelque chose qui s'est passé ici il y a 10 ans. Il y a énormément de décès et comme nous avons aussi beaucoup de Comoriens qui nous écoutent, voilà, j'en profite vraiment pour m'associer à vous. Donc, je pense à Koulou Haïdar, voilà, je pense à mon ami, celui que j'appelle le banquier Saïd, voilà, M. Saïdi, vraiment, nous avons beaucoup. Et puis, je pense aussi à Alonso Richard, que j'ai découvert, le rappeur, chanteur marseillais, très sympathique, avec qui on était au foot jeudi. Voilà, donc je pense à lui, notamment aussi à Soprano, surtout à son épine dorsale. Vraiment, elle se reconnaîtra, elle est très discrète, donc je pense très fort à vous. Donc Richard, sans plus tarder, nous allons donner la parole au président donc, de cette association des victimes du Yéménia. Je pense qu'il doit être en ligne. Allô?
Oui, allô, bonjour.
Oui, bonjour, c'est M. Ansoumani Saïd, président. Vous êtes président de
l'association des familles des victimes de la catastrophe aérienne de la Yéménia.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu qu'est-ce qui se prépare à Marseille pour les 10 ans de la Yéménia?
Oui, bien sûr. Tout d'abord, à tous nos amis sénégalais, je leur dis Nangadef.
Ningifi, Mangifi.
Mangifi, Rek. Merci beaucoup de nous donner cette occasion. Il y a 10 ans, il y a eu un accident, une catastrophe aérienne qui s'est produit au large des Comores, dont il y a eu 152 franco-comoriens qui ont disparu. Et nous organisons le 10e anniversaire pour la commémoration de cette catastrophe. C'est la plus grande catastrophe qu'ait connue le peuple comorien. C'est le grand deuil qu'ait connu l'histoire des Comores. Mmh. Pour nous, c'est un grand événement parce que le but, c'est de mobiliser le maximum de Français, de Marseillais, de Franco-Comoriens, des Africains, pour qu'on soit tous nombreux le 29 juin, le samedi prochain, 29 juin, à l'hôtel des régions, tout près de la place d'Aix et du métro Jules Guesse, pour rendre un hommage vibrant, pour dire qu'on ne les a pas oubliés, qu'ils sont toujours avec nous, pour faire un... En fait, c'est le devoir de mémoire qui compte.
Tout à fait.
Voilà. Parce que outre les enjeux qui sont dans ces dossiers quand même plus compliqués, parce que des enjeux judiciaires, économiques, c'est un combat très long et très très compliqué à mener. Mais je pense que le but principal, l'objectif principal de l'association et des familles des victimes, c'est de sauvegarder la mémoire de nos proches qui sont disparus et que tout le monde sache qu'on ne les a pas oubliés. Mais pour que tout le monde sache qu'on ne les a pas oubliés, il faut qu'on soit très nombreux le samedi prochain.
D'accord, exactement. Donc c'est samedi prochain, donc 29 juin, exactement où?
À l'hôtel de région. Mmh. L'hôtel de région, c'est au conseil régional, c'est le bâtiment qui est à côté de la place d'Aix.
D'accord,
donc, vers la porte d'Aix. Donc ça sera dans l'hémicycle de l'hôtel de région, voilà. Mmh. Il y aura une cérémonie officielle, et après la cérémonie officielle, il y aura une marche blanche, une marche de souvenirs qui partira de l'hôtel de la place d'Aix vers le Vieux-Port. Voilà.
D'accord. Et juste parce que vraiment, je ne m'y connais pas grand-chose donc sur ce dossier, est-ce qu'il y a eu des indemnisations ou des choses comme ça?
Disons que on n'a pas eu la totalité des indemnisations. Pour faire simple, pour ne pas compliquer les choses, je dirais on n'a pas eu des indemnisations parce que personne aujourd'hui, tous les ayants droit, toutes les familles, il n'y a aucune personne qui a eu la totalité de ces réparations. Vous voyez, je veux dire.
Tout à fait.
Donc, on pense que ça va se débloquer bientôt, sous peu, mais là, 10 ans après, il n'y a personne qui a eu la totalité de ces indemnisations.
Des indemnisations. En tout cas, 10 ans, ça fait quand même long, quand même, non?
Ça fait long, ça fait trop long, parce que l'histoire, c'est que malgré le drame qui s'est produit, mais il y a eu un autre drame dessus, parce qu'on est tombé sur une société, une compagnie étrangère, une compagnie entre guillemets voyou, qui ne respectent pas la vie humaine, qui ne respectent pas la souffrance humaine. Donc, ce qui fait que tout ce qui concerne les réparations, tout ce qui concerne les indemnisations, ils ont fait tout, ils ont mis le maximum de blocages avec la mauvaise foi totale, avec une mauvaise foi incroyable, pour que ça ne se fasse pas correctement. Bon, maintenant, si on regarde des cas parallèles, comme ce qui s'est produit le même mois, il y a 10 ans aussi, avec les Rio Paris, c'était en juin 2009, mmh. Eux, ils n'ont pas trop tardé, trois ans après, les problèmes des indemnisations, ils étaient déjà réglés, parce que c'était une autre société, c'était la compagnie Air France, c'était d'autres assureurs, c'était AXA, donc c'était des interlocuteurs sérieux. Mmh. Voilà. Donc nous, on est en train de se battre avec des voyous, mais on s'approche de la fin quand même.
Bon, ben écoutez, l'essentiel, c'est qu'on puisse s'approcher de la fin afin que toute la communauté comorienne, marseillaise, puisse faire le deuil de cet accident tragique. En tout cas, merci beaucoup pour votre intervention et puis on se donne rendez-vous tous à la porte d'Aix samedi prochain.
Tous, toute l'Afrique, tous nos amis sénégalais, voilà, il faut que tout le monde soit là.
On y sera. Merci beaucoup, monsieur Ansoumani Saïd. Merci.
Bonne journée.
Également, au revoir. Voilà, donc Richard, nous allons donc continuer cette émission. Voilà, donc ça s'appelle le plateau du Sénégal, mais nous donnons la parole à tout le monde. Voilà, et puis aussi, juste je rappelle qu'il y a des élections qui se passent aujourd'hui en Afrique, notamment à côté de chez nous, en Mauritanie. Voilà, donc aujourd'hui, les Mauritaniens donc se rendent aux urnes pour voter, choisir leur candidat. Choisir leur président. Il y a 6 candidats et le président sortant, Mohamed Ould Abdel Aziz, ne briguera pas un troisième mandat. Et ça, je pense que c'est une très, très, très bonne chose que les pays voisins s'en inspirent, en tout cas. Voilà. Donc, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, c'est très, très bien de respecter, en tout cas, cette constitution, même si, comme ça se fait beaucoup en Afrique, il a un dauphin, voilà, il a quelqu'un, voilà. Donc, en tout cas, il est en train de tout faire pour élire M. Gazouani, son ancien ministre de la Défense. Au moins, comme ça, peut-être aussi, les intérêts seront bien sauvegardés. Hein, Richard? Voilà, ça, c'est un peu l'Afrique qui marche. Enfin, qui marche, je ne sais pas si on peut dire ça. Mais au moins, il a refusé de briguer un troisième mandat. Et ça, je pense que c'est une très bonne chose pour les pays autour de la Mauritanie. Richard, tu sais, il y a un pays qui est très proche de la Mauritanie. Voilà, et un président, je l'ai dit, risque de faire un troisième mandat. Mais si je le dis, les gens, ils vont... Bon, je ne sais pas le pays, hein, vous pouvez tous deviner en tout cas. Voilà, donc Richard, je pense que notre Canadien, il est là, je pense. Hein. Matarli, notre international de basket, même si on va parler de football. Allô. Oui, bonjour Matar, comment va?
Ça va et toi?
Ça va, tranquille. Il dégoume le bar, il y a que ça bat ou le khamoun mouida maintenant?
Bien, maïdel.
Voilà, ça va beaucoup mieux.
Ah, ok, d'accord.
Ouais, ça va. Alors, comment ça se passe au Canada?
Tranquille, hein, on a un long week-end là. C'est la fête du Québec cette fin de semaine là.
D'accord.
Inch'Allah. Donc, on est bien.
Ah, ben ça va. Alors, en tant que grand sportif, quelle est votre analyse sur cette Coupe d'Afrique que nous allons aborder, nous, le Sénégal? Est-ce que cette fois-ci, comme tu l'as dit, hein, depuis tout le temps, tu le répètes, l'union des cœurs, l'union de ceci, l'union de cela, mais est-ce que, justement, c'est le moment pour l'équipe nationale du Sénégal de gagner cette Coupe d'Afrique?
Ouais, c'est le moment, l'ami.
Ah, vous n'allez pas encore nous faire comme chaque année, on a failli.
Non, Lamine, mais c'est comme ça, quand on part en compétition, on va pas partir en tant que perdant. Tu comprends?
Ouais.
Donc, on met tous les atouts de notre côté. Et il y a une bonne équipe quand même. Moi, j'aime bien cette équipe. Il y a une bonne ambiance. Il n'y a pas de distraction. Tu vois, ce qui est mauvais dans une équipe, c'est la distraction. Mmh. OK? On a des joueurs qui sont quand même, qui ont la tête sur les épaules. Franchement, là, il n'y a rien à dire. Hein.
Bon. Donc, Aliou Cissé va gagner cette Coupe d'Afrique.
Inch'Allah, par la grâce d'Allah, subhanallah.
En tout cas, je le lui souhaite parce que s'il ne gagne pas, en tout cas, j'espère que lui et toute la fédération, ils auront l'intelligence de donner leur démission et de partir et de laisser tomber tout ça. Parce qu'il est temps maintenant.
Mais là, Lamine, j'ai écouté Laïdjo tout à l'heure. Tu sais, est-ce que tu connais le record de Aliou Cissé en équipe nationale?
Le qui?
Le record.
Non.
Ok. Sur 30 matchs, Aliou Cissé, il a gagné 26, il a perdu 4. Et les 4 matchs qu'il a perdu, il y a 3 matchs d'entraînement, je ne sais pas quoi, et un match qu'on a, à la Coupe du Monde qu'on a perdu. Donc il faut arrêter, c'est quelqu'un qui gagne.
Bon,
mais pourquoi Lamine?
Juste, je t'amène, un contre-exemple. Okay. Comment il s'appelle? Amara Traoré. En Guinée équatoriale, okay. Je crois qu'il avait perdu aucun match. Et il est parti, il a fait 3 matchs, 3 défaites, il est rentré à la maison.
Mais je suis d'accord, Lamine. Dans une compétition, les entraîneurs, l'entraîneur représente l'équipe, au fait. Comprends?
Mm-hmm.
Mais quand même, il faut lui donner la chance. Okay?
Ah non, mais il a eu la chance à la Coupe du Monde et à la Coupe d'Afrique. Hein?
Lamine, arrête ça, s'il te plaît. Ouais. La Coupe du Monde, il ne faut pas rêver là, s'il te plaît. Ok. Il faut appeler le chat par son nom.
Ben justement, le chat, il faudrait aujourd'hui qu'il gagne. Hein?
Lamine, ok, on va en compétition pour gagner. Ok. Mais il y a des réalités au Sénégal. Lamine, j'ai fait 4 Coupes d'Afrique des Nations. Je connais bien comment ça se passe au Sénégal. Ce n'est pas du tout évident.
Tu n'as pas encore me parler de maraboutage parce que je vais m'énerver là avec vos marabouts.
Lamine, je ne te parle pas de maraboutage, je te parle de tout.
Mm.
Maraboutage, prime de match. Mais bon, peut-être maintenant, il n'y a plus de problème.
Aujourd'hui, le Sénégal est dans d'excellentes conditions. Ils prennent les avions du président. Ouais, ils ont de grandes primes. Ils mangent ce qu'ils veulent. Mais non, il faut arrêter. Aujourd'hui, l'équipe nationale du Sénégal A, je précise A, parce qu'il n'y a que cette équipe nationale qui est...
C'est vrai,
voilà. Eux, ils ont tout.
Tu te rappelles les conditions que l'équipe nationale a actuellement. Mais nous, on n'avait pas ça. Les privilèges qu'ils ont aujourd'hui, on ne les avait pas.
Raison de plus qu'ils doivent gagner. Vous n'aviez pas ça et pourtant, vous avez gagné des Coupes d'Afrique.
En préparation de Coupe d'Afrique, si je te dis le podium qu'on recevait par jour, sans mentir, c'est 5000 francs par jour.
10 euros quoi, moins de 10.
Ok, donc je te dis... Nous, c'est ce qu'on recevait. Et on s'est battu en 97 avec la grève qu'on a organisée. Tu te rappelles de l'histoire, là, je ne vais pas revenir.
et que tu as été foutu dehors.
Mais je n'ai pas été foutu dehors. On est parti aux États-Unis en préparation. Je suis revenu avec une blessure des ligaments croisés.
Bon, ça va.
OK? Avec une blessure des ligaments croisés. Donc, une opération était obligatoire pour moi. Ok, c'est ça.
Ouais.
Mais anyway, ce que je veux dire, Lamine, on a une bonne équipe, ok? On a un bon entraîneur. Bon, moi, j'ai confiance à l'entraîneur, ok? Parce que j'ai toujours vu qu'on va à l'étranger pour prendre quelqu'un. Si on peut aller à l'étranger prendre quelqu'un, lui paye 10 millions, alors qu'on a un produit qui était capitaine de l'équipe, mais donnez-lui la chance.
Non, mais il a la chance, il n'y a pas de souci. Maintenant, on le regarde faire.
On le regarde faire, Lamine. Eh bien, il faut avoir confiance. C'est ça, le Sénégal. Bon. Parce qu'il y a beaucoup... Lamine, je te dis une chose. On ne va pas en Coupe d'Afrique avec tous les cœurs ensemble. C'est ce que je dis. Déjà, toi, le supporter de Macky Sall, toi, là, Lamine,
ouais.
Hein, c'est toi qui commences déjà avec Aliou Cissé. Tu n'es pas avec nous.
Mais si, je suis avec l'équipe. Mais il est temps qu'on arrête de dire « Affaire bi demone na bay neex boub mi dag ». Xawma nuñ ko waxe non ci olof.
Lamine, voilà. Tu n'es pas avec nous. Tu es avec le gouvernement de Macky. Tu vois ce qui se passe actuellement. C'est ce qui va se passer à la Coupe d'Afrique.
Non,
c'est
regarde, la preuve que je suis avec tout le monde, je parle de football et de pétrole. Parce qu'eux, ils veulent pour le moment qu'on parle que de football. Non, je parle de football et après avec Baba Aïdara, on parlera de pétrole. Là, cette fois-ci, Coupe d'Afrique va rimer avec pétrole jusqu'au bout.
Mais Lamine, le pétrole... Il n'y a rien à dire, Baba Aïdara, il a tout dit.
Tout à fait.
Mais il a tout dit. Tu vas l'interviewer, il va se répéter.
Non, on va revenir sur d'autres choses, sur d'autres analyses, surtout cette semaine, tout ce qui s'est passé. On va revenir sur tout ça. Ouais.
Bon.
On va essayer d'écouter parce que j'ai plein de personnes donc, que je dois mettre à l'antenne.
Je vais te laisser, Lamine. Je lance un appel à tous les Sénégalais de supporters. On n'a que ça. Et en commençant par toi-même.
Mais bon, moi, je sais que j'adore cette équipe nationale. Mais je regarde toujours avec un pincement au cœur parce que je ne comprends pas, par exemple, un Sadio Mané, un Idrissa Gana, qui est extraordinaire dans leur club. Quand ils viennent chez nous, c'est comme s'ils n'ont jamais joué de football.
Lamine, est-ce que je t'avais expliqué ce qui se passe en équipe nationale? Je t'ai dit, il y a les réalités. Tu ne peux pas le savoir. Il faut le vivre pour le savoir. Donc, je sais ce que je dis.
Bon.
Laissez-leur, on a une équipe talentueuse. On a des jeunes qui ont la tête sur les épaules. Pas de distraction. L'équipe est ensemble. Ils vont y aller, Inch'Allah, pour gagner la main. Moi, j'ai confiance dans cette équipe.
On va avoir confiance. Moi, demain, Sénégal-Tanzanie. Mm-hmm. Donc, on va regarder tranquillement à 19h. Mais pour moi, ce ne sera pas mon match de référence. Le match de référence pour moi, c'est Sénégal-Algérie. Non. Le 27 juin à 19h.
Non, je ne suis pas d'accord. Tous les matchs comptent en compétition internationale.
Ça, c'est vrai.
Y a pas...
Ça, c'est vrai. Mais la manière de jouer aussi, c'est important. L'adversaire aussi, c'est important.
Je suis parfaitement d'accord, mais tous les adversaires sont pareils. En cette compétition-là, il y a plus de... OK, si on gagne les calculs avec les Noétans au Sénégal, il n'y en a pas. Il faut gagner les matchs pour pouvoir avancer. C'est un peu comme aujourd'hui.
Ben écoute, on verra ça. Et puis déjà, dès demain, on aura déjà une première idée de notre équipe nationale après le match contre la Tanzanie.
Inch'Allah, je vous souhaite toute la chance au monde.
Djadjom Samarek.
All right, Lamin, bonne journée.
Merci également.
Salut à Richard.
Merci.
Bye.
Ciao. Voilà, donc vous êtes toujours sur le www.radiogalère.org. Vous êtes aussi sur le RNT DAP+, canal 8C. Et vous êtes aussi sur la bande FM, le 88.4. Voilà, comme je l'avais promis aussi depuis très longtemps à Ousmane Seck, qui nous avait appelé parce qu'il y a eu des problèmes avec des jeunes qui devaient venir en France. C'est vrai qu'actuellement, nous sommes très pris par le pétrole. Donc aujourd'hui, nous allons lui donner la parole pour en savoir un peu plus sur cette histoire. Donc avec cette ambassade de France qui bloque toujours la plupart des Sénégalais qui veulent venir ici. Mais en attendant, on va dire bravo aux femmes nigérianes. Voilà, là je suis en train de parler de Coupe du Monde, donc des femmes. Les Nigérianes qui se sont qualifiées et qui vont jouer tout à l'heure contre l'Allemagne. Voilà, si je parle de cette équipe nigériane, c'est que, en tout cas, la France, parce que France-Nigéria, c'était le dernier match, et que la France a eu un gros coup de main pour gagner cette équipe nigériane qui était très brave. Voilà, cette équipe, les joueuses ont tenu tête à la France, mais l'arbitre a donné un gros coup de pouce à la France, même si les gens ils me disent « oui, le règlement ». Parce qu'avec ce règlement, là, hein, vous avez tous compris, donc il ne faut peut-être même plus essayer d'arrêter le ballon, quoi. Il faut laisser rentrer et puis on continue. Voilà, donc, mais en tout cas, l'essentiel, c'était de retenir la qualification du Nigeria. Donc aujourd'hui, 17h30, Nigeria donc, va jouer contre l'Allemagne. Et puis, dans cette même optique, nous avons aussi une autre équipe africaine, le Cameroun. Voilà, qui va en découdre avec l'Angleterre demain, pareil à 17h30. Et puis bien sûr, même si on critique cette équipe de France sur cette manière en tout cas de jouer, sur justement l'aide que les arbitres apportent à cette équipe de France, nous quand même supportons cette équipe de France qui va en découdre aussi demain à 21h face à l'équipe de Marta du Brésil. Voilà, donc les huitièmes de finale, Angleterre-Cameroun, France-Brésil demain et aujourd'hui Allemagne-Nigeria. Bon, il y a d'autres équipes, mais bon, moi je parle de ces équipes-là qui nous intéressent. Richard, est-ce qu'on a Ousmane Seck en ligne? Allô, allô?
Allô, oui.
Oui, bonjour Ousmane.
Oui, bonjour Lamine.
Ça va bien?
Ça va, bon. Ça va. Merci.
En tout cas, ça nous fait plaisir donc de revenir. Enfin, on y arrive. C'est vrai que c'était un peu compliqué. Voilà. Et justement, on vient sur ce problème que vous avez eu. Pouvez-vous nous expliquer très rapidement pour nos auditeurs ce qui s'est passé à l'ambassade de France au Sénégal?
Oui, d'accord. Pardon. Merci, Lamine, donc, pour l'invitation. Hein. Donc, et voilà, heureux d'être toujours avec vous. Hein. Mm-hmm. Donc, je profite de l'occasion de ce plateau du Sénégal pour passer le bonjour à tout le monde, toute la communauté et au-delà. Mmh. Voilà, donc remercier tout le monde aussi pour leur contribution, pour des affaires qui concernent le Sénégal.
Tout à fait.
Voilà, merci. Donc voilà, pour commencer justement, voilà, je t'avais appelé parce qu'à un moment donné, donc, on a eu un problème encore. Ça devient récurrent, même si il y a certains cas qui ne posent pas de problème. Mais il faut reconnaître que de temps en temps, il y a beaucoup trop d'arbitraires. Donc, et ça, à un moment donné, l'objectif, ce n'était pas de venir polémiquer ou autre, c'est d'informer, de dire aux gens ce qui s'est passé dernièrement, notamment avec le tournoi international de Gignac, qui est quand même un tournoi qui est plus reconnu. Voilà, donc avec des jeunes qui étaient invités, qui devaient venir. Des jeunes qui, je rappelle, ont l'occasion d'aller un peu partout. Hein. Ils voyagent partout.
Ce sont des jeunes des écoles de football.
Ils revenaient récemment d'Italie où ils ont gagné un tournoi là-bas. Voilà, donc, et ce qui est drôle, c'est le consul même adjoint en personne qui gérait ce dossier.
Le consul général de France au Sénégal.
Le consul adjoint chargé des visas.
D'accord. Ouais,
qui était l'interlocuteur direct du président. C'était la structure qui devait être dirigée par le président de la CONEF, qui est récemment reconnu par la Fédération sénégalaise. Si vous voulez, c'est l'organe qui s'occupe du football des jeunes.
D'accord.
C'est la coordination nationale des écoles de football.
D'accord.
Donc, qui dont le président était en tête, devait accompagner la délégation. Donc, ce qui est grave, c'est que l'ambassade, le consulat dit non à une demande de visa, c'est pas un problème parce que c'est pas la première fois et bon, c'est à leur discussion, etc. Mais le problème, c'est donc le tournoi avait lieu le 8, 9, 10. Le dossier a bel et bien été déposé, reçu, mais ce qui est grave, c'est que ce dossier-là n'a jamais été traité du tout.
Ben, si le dossier a été traité, oui, on vous a refusé le visa.
Comment ?
On vous a refusé le visa, donc le dossier a été traité.
Non, même pas traité. C'est ça qui est grave, parce que tu fais des dépôts de dossiers visa, via leur prestataire de service, VFS, mm-hmm. qui collecte le dossier, une fois constitué, et qui passe au consulat. Le consulat les traite et donne une réponse, oui ou non. Délivre le visa, non, il refuse. Mais le problème, ce dossier-là a été bel et bien reçu, mais non traité.
Donc cela veut dire que vous n'avez pas eu de réponse.
Comment ?
Vous n'avez pas eu de réponse.
Pas de réponse, ce qui est un scandale pour une mission de service public. Bon, bref, voilà, donc ça ne s'arrête pas là. Après, donc, le tournoi se passe, pas de réponse, rien. Entre-temps, c'est son droit, le consul serait absent, était absent du pays. Il faut récupérer tout ça le lundi précédent. Et donc, ce qui est grave encore, comme je viens de le dire, il y avait le président de la CONEF, qui est quand même reconnu par la Fédération sénégalaise de football.
C'est qui le président ?
Monsieur Alpha Dabo.
D'accord.
Donc, et Alpha Dabo, qui encore, après cette période ici, il y a un de ses gamins qui devait voyager aux États-Unis. Impossible de récupérer son passeport. Et Alpha Dabo même, qui est de la fédération, et qui devait aller à la CAN, jusqu'à avant-hier, il n'avait pas son passeport non plus. Donc il était dans la délégation officielle pour récupérer son passeport. En fait, voilà, c'est ce que j'appelle moi une confiscation de passeport, tout simplement.
D'accord.
Vous
l'avez toujours pas eu, les passeports ?
Aux dernières nouvelles avant-hier, il avait rien. Et il devait partir hier en Égypte pour les besoins de la Coupe de la CAN. Ce qui est quand même un scandale, parce que les passeports sénégalais, que je sache, sont une propriété de l'État du Sénégal.
Mais ce que vous dites quand même, donc, c'est un peu même. Fou quand même. Hein. On a pris vos passeports, vous avez payé quand même, je suppose, les frais de visa.
Oui.
Et vous n'avez toujours pas de réponse et vous avez raté votre tournoi et on ne vous a rien dit. Non, mais c'est hallucinant, cette ambassade de France.
Avec tout ce que cela comporte comme conséquence. Ils avaient acheté les billets, tout ça, même s'ils avaient réservé avec une assurance. Bon, c'est une perte d'argent, tout ça. Bon, bref. Donc, l'objectif, c'était d'informer, de poser ce problème dans cette émission-là. Et puis, surtout, essayer d'avoir les avis des uns et des autres afin que cela s'arrête, parce que ça ne peut plus continuer comme ça. Parce que si on dit rien, c'est avant-hier, c'était quelque chose du minime, entre guillemets, hier, c'était autre chose. Et aujourd'hui, encore demain, ce sera quoi? À un moment donné, il faut dire, on stoppe. Moi, je dis d'exiger carrément le remboursement de ce truc. Et puis, s'il portait le paix, là où de droit, parce qu'on ne peut pas laisser...
J'espère que vous avez saisi quand même. J'espère que vous avez saisi le ministère des Sports et la Fédération sénégalaise de football, même s'ils sont tous certainement à la CAN. Mais au moins, ces choses-là, ça doit être réglé.
Oui, bon, ça, c'est lui qui le gère. Hein. Moi, je ne me mise pas dans ça.
Oui, je comprends.
Je me permets de donner mon avis. Mais par contre, je dis même, il ne faut pas que cette affaire s'arrête à ces deux instances-là. Ça peut aller même jusqu'au ministère des Affaires étrangères. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de passeports. On prive à des jeunes enfants et des moins jeunes, tout simplement, de voyager. Voilà, qu'ils ont des projets.
Mais au-delà même de voyager, au moins qu'on puisse vous répondre oui ou non.
Non, qu'ils ne viennent pas en France, ça, ce n'est pas un problème pour moi. Ça, après, il y a le droit, quand même. Il y a le droit, on peut dire ce qu'on veut. Il y a des voies de recours, tout ce qu'on veut, etc. Tout ça. Mais aujourd'hui, ce qui est grave pour moi, c'est on est pas à la merci, on prend le passeport des Sénégalais, qui n'appartient pas, que je sache, à l'État français, et on les garde. Voilà, les gens, pendant ce temps, il y a un jeune qui devait voyager aux États-Unis, il ne peut pas. Et le président qui devait aller à Cannes, je ne sais pas, jusqu'à avant-hier en tout cas, pareil. Et donc, où sont les autorités sénégalaises dans tout ça? S'ils sont saisis, le ministre des Affaires étrangères peut dire un petit truc pour rendre les passeports. C'est tout simplement ça. C'est bon. Aussi simple que ça. Donc, le but du jeu, moi, je n'ai pas les solutions. Hein.
Bien sûr. Non, vous avez bien fait déjà de nous informer. Voilà, le but, c'est surtout aussi que les gens sachent ce qui se passe dans nos pays, que vraiment, encore une fois, je vais dire encore une fois de plus, la France. Voilà, parce que ça, c'est un manque de respect avec aussi des autorités sénégalaises qui sont dociles. Voilà, et c'est énervant, c'est irrespectueux et il va falloir qu'on continue à le dénoncer. En tout cas, merci beaucoup, Ousmane, d'avoir dénoncé ce fait. Et puis, nous, avec notre voix, avec nos podcasts, Richard, on essaie de divulguer l'information au maximum.
Voilà, pour affirmer, si tu permets, pour affirmer les gars, parce qu'Italie l'a joué récemment. C'est tous ces gosses-là, en plus, bon, d'où raison, mais tous les gosses qui étaient sur la liste, après ça, des gosses qui vivaient en Italie, un gosse qui vit en Italie. Donc, tous ces gosses-là avaient au moins deux visas. Le mois dernier, ils sont allés jouer en Italie. Mais le dossier n'a pas. Bon, bref, voilà. Donc, comme il y a un problème, le but du jeu, c'est de se coucher en khalat, et puis ça ne s'arrêtera pas là. Voilà, donc si je permets, donc, vous voulez que je m'aille tous dire que l'équipe nationale dit.
Waouh. Allez, vas-y rapidement, oui.
Voilà, donc, je lui souhaite une bonne chance. Dès que nous avons échangé tout avec Lamine, que je salue au passage.
Hein, Matar.
Qui a été un grand champion. Voilà, dès que nous avons d'accord, mais je pense que c'est Dal. L'Ingen lui a coutiné d'être pertinent à un moment donné, mais il y a une union sacrée, quoi. Voilà, autour de l'équipe et de son entraîneur. Il y a un temps pour tout. C'est vrai, il y a des exigences, il faut des exigences. On est en droit d'avoir des exigences.
Tout à fait.
Bon.
On parle de l'union des cœurs.
Voilà. Quand on voit la France, avec Deschamps, avec Zidane, avec tout ça, ils ont commencé, ce qui est valable dans les autres pays peut bien être valable là-bas. À lui, si c'est, amener notre défaut qualité comme il y a. Et à dire, il a besoin, nous d'appeler, pour nous sentir tout un peuple derrière lui. Après, il y aura le temps des bonnes, tout ça. Mais en tout cas, c'est un débat que j'ai trouvé intéressant, pertinent. Voilà, et puis voilà, j'espère que nous avons un spécialiste de l'ECCAN, notamment une ligne à prévoir, qui ne contribue pas. En tout cas, on te remercie encore mille fois.
Merci.
Nous avons permis au moins de nous faire tout de et puis voilà, continuer. En tout cas, merci une fois de plus. Et surtout, bonne suite de
merci beaucoup, Ousmane. Merci. Et voilà. Bien sûr, merci pour tout ce que tu fais pour la jeunesse. Merci.
Non, merci à toi plutôt. Merci.
Allez, voilà. Merci beaucoup, Ousmane. Voilà, oui, Richard.
Oui, j'avais une question, Lamine. Mais je me disais, est-ce qu'au Sénégal, est-ce qu'il n'y a pas pour les sportifs, pour les artistes, est-ce qu'il n'y a pas un service spécial pour les visas, un interlocuteur en particulier pour que ça aille plus vite?
Ah, en tout cas, s'il y a un interlocuteur, un service spécial, ça m'étonnerait parce qu'on a même vu au Sénégal des professeurs d'université à qui on a refusé des visas. D'accord. Donc, voilà, ça c'est... Voilà, la France fait ce qu'elle veut, mais si je le dis, c'est un pléonasme. Voilà, donc, voilà, on va me dire que c'est un État souverain, mais ils octroient leur visa comme ils ont envie. Des fois, mais en dehors de toute logique. Voilà, des fois, vous venez, vous déposez vos documents, vous avez tout ce qu'il faut, mais toutes les garanties nécessaires, ils vont vous dire non. Vous venez des fois déposer, mais avec, voilà, juste des prières et ça passe. Bon, après, voilà, il y a des choses, on ne peut pas aller à l'au-delà, comme disait Einstein, ouais, je pense un peu au philosophe là du bac. Voilà, ce qu'il y a d'incompréhensible, c'est que le monde soit compréhensible. Il y a des choses, il faut simplement y croire ou non. Et malheureusement, nous sommes dans ces situations-là. Bon, Richard, donc, une toute petite pause musicale. On revient finir avec le football avant d'essayer de voir si Baba Aïdara est bien réveillé du côté des États-Unis.
Mugilane, Pavesune, Nekichio, Nekichiman.
le plateau du Sénégal
beaucoup,
sur Radio
Richard.
Galère.
Donc, nous allons continuer tranquillement en attendant d'avoir Baba Aïdara. C'est très, très compliqué, Richard, quand nous avons des décalages énormes. Donc, pour avoir nos invités, c'est un peu compliqué. Et puis, avec la Coupe d'Afrique aussi, voilà, je voulais faire la surprise, enfin, même si je l'avais annoncé. Donc, LH Ousseynou Diouf, notre star internationale. Donc, on s'était mis d'accord, mais voilà, c'est sûr que aussi il m'avait dit, voilà, c'est des fois très compliqué quand on est en dehors du Sénégal, surtout qu'il fait partie des officiels. Donc, j'arrive pas à joindre LH Ousseynou Diouf. Voilà, je devais aussi avoir l'ancien international sénégalais Lamine Boup. Voilà, là aussi nous avons des problèmes de réseau. Voilà, c'est un peu comme ça. Et je devais aussi avoir notre journaliste Adama Kandé de la 2S TV. Voilà, voilà, c'est assez compliqué, mais même si on les a pas, on les aura, ne vous inquiétez pas. Et en tout cas, on essaiera de tout faire. Hein, voilà, hein. L'homme propose. Non, c'est quoi? C'est l'homme. Dieu, je ne sais plus la phrase, c'est quoi? L'homme propose. Enfin, je ne sais plus. Hein. Voilà, hein, on va faire simple. Ouais, et l'homme propose et Dieu dispose, il me semble. Hein. Voilà, si ce n'est pas ça, envoyez-nous des messages pour rectifier. Voilà, et puis, Richard, dans 2 ou 3 minutes, nous allons partir réveiller Baba Aïdara aux États-Unis. Voilà, aujourd'hui, nous allons le traquer parce qu'il va falloir qu'on revienne un tout petit peu sur ce qui s'est passé. Et vraiment, comme je disais en début d'émission, mention spéciale à tous les Sénégalais qui sont sortis dans la rue, dans le calme, pour manifester les images. Vraiment, Richard, il y avait du monde fou, 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 partout. Voilà, pour une fois, je peux dire que c'était noir de monde. Voilà, parce que j'accepte pas en France où on voit que des blancs dans les manifestations, on dit que c'est noir de monde. Non, c'est blanc de monde, mais chez nous hier, c'était noir de monde. Voilà, en tout cas, vraiment bravo à tout ce peuple. Et puis, nous devons continuer le combat. Bravo aussi aux Sénégalais de la diaspora. Voilà, notamment à Babacar Sall, donc, que nous avons... nous avons eu l'occasion de l'interviewer sur cette antenne, Babacar Sall, donc, qui est parti devant les instances de l'ITE, donc, qui s'occupe donc les instances, en tout cas, des hydrocarbures, voilà, pour défendre la cause sénégalaise, pour en tout cas dire à ces autorités qui s'occupent de, en tout cas, de la lutte contre la corruption qu'aujourd'hui, tout est nébuleux au Sénégal dans la... Pardon, dans la gestion du pétrole et dans la gestion du gaz et aussi des autres ressources naturelles. Bravo aussi aux Sénégalais des îles Britanniques en Angleterre qui ont aussi organisé des manifestations. C'est vrai, il va falloir divulguer cette information pour montrer que le président de la République du Sénégal et son frère Aliou Sall et d'autres du clan familial et du clan gouvernemental ont fait des choses qui ne sont pas du tout correctes. Et puis, moi, je le dis, aujourd'hui, tout le monde s'en prend certainement à Aliou Sall, mais le véritable problème au Sénégal, je pense que les Sénégalais commencent à comprendre, Aliou Sall qui n'a fait aucune étude pétrolière, Aliou Sall, le frère du président de la République, qui ne connaît absolument rien dans les ressources naturelles, Aliou Sall, le frère du président de la République, Richard, il est... comme nous, entre guillemets, voilà, nous on est des animateurs, lui il est journaliste, voilà. Mais du jour au lendemain, il se retrouve donc dans le milieu des affaires du pétrole avec des centaines de milliards dont on parle en tout cas qui tournent autour de lui. Il y a un problème. Donc aujourd'hui, comme je dis, si on regarde très bien, Aliou Sall ne peut pas être en tout cas numéro un dans ce dossier. Le numéro 1 dans ce dossier, c'est celui qui a signé le décret d'approbation du 19 juin 2012. Celui aujourd'hui qui devrait être pris pour cible, c'est tout simplement le président de la République qui a signé sur du faux, mais aussi, on peut épiloguer, parce que le président de la République, Richard, il était responsable des données statistiques à Petrosen, la société sénégalaise donc, qui gère le pétrole. Il était même le directeur de Petrosen, Richard, notre président de la République. Et puis, il est géophysicien de formation. Voilà. Et puis, notre président de la République, il a été ministre de l'Intérieur. Il a eu tous les renseignements généraux. Donc, aujourd'hui, logiquement, est-ce que c'est Aliou Sall qui est derrière le président de la République ou est-ce que c'est le président de la République qui est derrière son jeune frère? Qui a les connaissances? N'est-ce pas le président de la République? Qui a signé le décret? N'est-ce pas le président de la République? Donc, je pense qu'aujourd'hui, Aliou Sall, voilà, hein, on devrait quand même pousser la réflexion un peu plus haut pour savoir que finalement ndayu mbiligi comme on dit chez nous en tonton Golombel comme nous koy waxé c'est tout simplement le président de la République qui est au-dessus. Et Richard, avant de l'oublier, quelques dédicaces à nos amis de la Seine-sur-Mer. Nous sommes beaucoup écoutés du côté de Toulon, la Seine-sur-Mer. Bien sûr, nous pensons à Medoundienne, nous pensons à Tchernodien, nous pensons à Cheikh Ndiaye, ce que j'appelle les classiques. Mais nous avons de toutes nouvelles auditrices. Donc, je pense à Cathy Mendy, ma copine Cathy Mendy, maman d'Alassane, qui est à la Seine-sur-Mer. Et je pense aussi à Marie-Hélène, voilà, que j'ai croisé hier à l'aéroport. Donc, Marie-Hélène, voilà, yo tamit, yangi ci bir. Voilà, et puis, donc, Richard, on va continuer. Une toute petite pause musicale et après, on part aux États-Unis. 04 91 08 28 10. Richard, donc on va retrouver notre Baba Aïdara International. Comme je l'ai dit, l'homme par qui tout est arrivé. Mais juste en attendant, on va prendre un auditeur donc d'Aix-en-Provence qui est là et qui attend. Allô, allô?
Allô, l'ami?
Oui, bonjour, ça c'est Biratchoun, Aix-en-Provence.
Oui, comment va l'ami?
Ça va grand.
Bah, très bien, très bien.
Ouais, nous les déglutis à l'antenne, hein?
Ouais, ouais, non, mais en fait, comme comme il y a un écho, je me demande.
Ben parce que tu mets ta radio là, sorry le costa radio.
Ouais. Yamé dégâts.
Ouais, mal dégâts.
Ouais, donc je disais que amna moment yo xamné nit ñi dañuy jaxassé affaire yi dal, dañuy jaxassé système bi. Manam dañuy jéki rek yëkëti poussière bi, ñëpp andondo feux, kenn du xam fan la dëgg bi nekk. Et liñu wara def fimu nekk ni Lamine moy ñu reprendre débat bi fa mu juggé. Il faut reprendre le débat de là où nous sommes partis, parce que actuellement il y a tellement d'irrégularité au Sénégal, parce que aujourd'hui j'ai l'impression qu'on a oublié l'histoire de Khalifa Sall. A bien perturbé le système, voilà. Tout donc déjà c'est comment dire, politiquement et judiciairement il faut que nous régler l'ol bon pareil. Parce que si on veut parler du frère de Macky Sall et autres, on va perturber le système, on ne va jamais rien régler. Voilà. Il ne faut pas que les gars Diakhasso ni poussière du grec, ni pas d'Aodon. Non, il faut se calmer, résoudre les problèmes étape par étape. C'est ce qu'il faut. Parce que Sénégal, les gars ont fait la mine. Tu comprends?
Ça, c'est sûr.
Voilà. Bon. Donc, il faut nous récupérer le système. Donc, les nous voulons. Étape par étape, nous régler yépp ku nek xam sa place, ku nek xam noy fecce ak fa nga wara togué, voilà. Mais tant que defu ñu lolu, perturbation né am ñepp jaxasso, kenn du xam fu dëgg bi nek, lëndëm bi touru fi, non, il faut revenir à la réalité, il faut remettre les cartes en jeu. Voilà, il faut remettre les cartes en jeu, suivre les choses étape par étape, faire les choses convenablement. Là, on peut parler du Sénégal, mais pour le moment, c'est le désordre total. Voilà.
Bon, ben
donc,
écoute,
juste pour faire un petit rappel, pour que les gens sachent qu'au Sénégal, il y a trop de bordel. Voilà le mot.
Voilà le mot.
Il faut remettre les choses en place.
Tout à fait. Voilà, ben écoute, on essaie de remettre, donc comme tu dis, les choses en place.
Dans cette union-là, on est tous à la rue. Voilà.
Ok.
Ce
bon, ben merci en tout cas du rappel, et c'est très bien en tout cas qu'on laisse les gens qui maîtrisent les sujets dire les choses telles qu'elles sont. Et aujourd'hui, je te remercie bien sûr, Biratchoun. Richard, si tu as un problème de voiture, quel que soit le problème de voiture, il faudrait aller voir Biratchoun. Voilà, honnêtement, je le dis, depuis que je le connais, plus personne ne touche ma voiture. C'est le monsieur référence de voiture. Tout ce que tu veux, tout ce qu'il y a comme problème, il faut aller le voir. C'est un excellent, en tout cas, on va dire, mécanicien. Il maîtrise tout dans la voiture.
Mais je prends note, Lamine.
Voilà. Ah non, ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Et puis, donc, de référence en référence, nous allons passer maintenant à la référence pétrole du Sénégal. Aujourd'hui, force est de reconnaître et de constater qu'au Sénégal, quand on parle de ressources naturelles, plus particulièrement de pétrole et de gaz, tout le monde sait que la référence par excellence s'appelle Baba Aïdara, le journaliste d'investigation qui est aux États-Unis, qui nous a mis tous au parfum dès juillet 2012. Richard, nous avons Baba Aïdara en ligne. Allô, allô?
Allô, oui. Radio Galère, c'est Baba Aïdara.
Voilà, Gala, il est au Glodé.
Non, c'est bon, je croyais que j'étais en mute là, mais je crois que c'est
bon. Bon, ça va. Bon, en tout cas, vous êtes donc dans nos zones de Radio Galère et ça fait toujours plaisir de vous avoir sur le www.radiogalère.org, sur le 88.4 la bande FM et sur le, Richard, c'est quoi, c'est la radio numérique terrestre?
Oui, tout à fait, pour ceux qui ont la chance d'avoir ce poste de radio numérique, oui.
Voilà, donc c'est le canal 8C,
DAB+.
DAB+, canal 8C. Oui. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Baba Aïdara. Vraiment, nous ne cesserons de vous remercier sur cette antenne parce que vous êtes un pionnier de cette histoire. Si aujourd'hui la BBC, si aujourd'hui toutes les autorités sénégalaises et mondiales parlent du pétrole et du gaz, c'est parce que Baba Aïdara a été le précurseur. Donc, très rapidement, comme m'avait dit mon... auditeur panéliste depuis le Canada, Matarli, m'a dit Baba Aïdara risque de répéter parce qu'il a pratiquement tout dit. Mais juste aujourd'hui, sur un autre angle, Grand, comment vous voyez-vous justement le développement aujourd'hui de cette affaire, avec notamment la sortie du procureur, le président qui n'était pas au courant donc des rapports de l'IGE, c'est lui-même qui l'a commandité, le frère du président qui dit qu'il n'a jamais reçu de l'argent, alors que le conseil du président a dit « si, si, il l'a reçu, mais ce n'est pas un pot de vin », etc., etc. Quelle analyse faites-vous de ces dernières sorties?
Lamine, je crois qu'avec ces derniers développements, on peut dire, comme disait l'autre dans son livre, un bourrahat. C'est comme un bourrahat de... ça tire de partout. C'est le désordre complètement. Maintenant, il y a des gens quand même qui, on ne sait pas de quel jeu ils sont en train de jouer. Je donne le cas de Pierre Goudjabi à quelque part. Sa sortie, après avoir rencontré les enquêteurs de la DIC, qui nous dit que c'est lui qui a introduit Franck Timis au Sénégal, je peux dire tout de suite aux auditeurs que ce n'est pas vrai.
Pourtant, il nous l'a dit ici dans cette antenne, je l'ai invité ici.
Il raconte des histoires, ce n'est pas vrai.
Ah.
Ils font des jets de mots devant une situation où tous les Sénégalais sérieux veulent savoir la vérité. Goudjabi n'a jamais introduit Franck Timis au Sénégal.
Ben, qui l'a introduit Franck donc Timis.
C'est Samuel Sarr qui était à l'origine de la venue de Franck Timis au Sénégal. C'était en 2009. Une rencontre lors d'un forum en Europe où Samuel Sarr était à l'époque. Donc 2009-2010 où Samuel Sarr était à l'époque cadre dans le gouvernement sénégalais, ministre de l'énergie, etc. Donc, c'est durant cette rencontre, il s'était déplacé avec l'ex-directeur de Petrosen, Ibrahima Kanouté. Même si vous vous rappelez, Franck Timis, une de ses sorties au Sénégal, avait déclaré que Samuel Sarr était mondial, qu'il avait convaincu de venir investir au Sénégal.
Tout à fait.
Quand il me dit, le Pierre Goudjabi à ta part, quand il me dit qu'il a convaincu le président pour qu'il lui donne la licence, on parle, lui, il parle de la licence d'African Petroleum, qui est un démembrement de Timis Corporation et qui détenait les puits de Rufisque Offshore et de Sud-Sénégal profond. L'argument de taille dont il parle, comme argument de taille, qui disait que national security, c'est-à-dire une question de sécurité nationale pour convaincre le président Ward de signer le contrat avec Franck Timis. D'abord, ce qui est déjà faux, un président de la République ne signe pas de contrat. Un président de la République, il signe des accords. Un président de la République signe des décrets. Un président ne signe pas de contrat. Les questions de contrat émanent des directeurs et des ministres. Donc, quand Franck Timis, si vous vous rappelez, dans une de ses sorties avec le journaliste Alassane Samba Diop, il disait que Franck Timis lui avait dit, si vous ne me donnez pas la licence, moi, il y a un pays voisin, je vais partir là-bas, dinagnac. Voilà l'expression qu'il a utilisée, dinagnac, c'est le pétrole. D'ailleurs, c'est même pas sérieux de dire que tu peux aller dans un pays voisin et à partir de là-bas, tu aspires notre pétrole. C'est vraiment parler avec des profanes. Pour s'exprimer ainsi. Franck Timis, avant d'arriver au Sénégal, il détenait déjà les deux puits gambiens, Alhamdoulilah 1, Alhamdoulilah 4 de Yahya Jammeh. Maintenant, la pollution de A1 en Gambie et de A4 en Gambie lui donnait la possibilité de voir ce qui se passait vers Rufisque Offshore. Parce que Rufisque Offshore, tout près de la position de A1 et A2 de la Gambie. C'est là où j'avais un problème déjà avec le président sénégalais quand on donnait les licences de Rufisque et Sud-Sénégal, mais Rufisque d'abord, qu'on a cédé actuellement même à Total.
Total. Ouais.
Parce que la position géographique de Rufisque, Rufisque est au milieu des deux plus grandes découvertes d'Afrique, voire du monde. C'est-à-dire la découverte de 2014 de Sangomar avec Cairn, Far Limited, ConocoPhillips et maintenant Woodside. Et de l'autre côté, la plus grande découverte du gaz dont personne pour le moment a battu le record, la découverte de Saint-Louis-Kayar.
Mais justement, mais on ne parle pratiquement justement que de Saint-Louis offshore et de Kayar offshore dans la nébuleuse. Khana donc les autres blocs, comme vous l'avez dit, Rufisque, tout ça, c'est transparent parce que pratiquement on n'en parle jamais.
Si, c'est parce que les gens n'écoutent pas en général. Les gens, en fait, qui les intéressent. Les politiciens qui envolument la situation, ils sont dans leur rôle. Moi, je suis entièrement en phase avec eux. Comme Saint-Louis et Kayar, il y a la main du jeune frère du président. Et pour atteindre le président, il faut taper, il faut passer par le frère. Donc, ils ont en lui envolumé la situation. Mais il y a encore pire sur la manière dont on a cédé la licence à Total. D'abord, on est allé rompre avec Timmins Corporation qui avait Rufisque, la position géographique de Rufisque, qui est au centre des deux grandes découvertes du monde, Sangomar et Kayar Saint-Louis. Donc, le Sénégal devait en premier lieu changer son code pétrolier. Parce que le code pétrolier de 98 n'avait plus sa raison d'être. Pourquoi je dis le code pétrolier de 98 n'avait plus sa raison d'être? Quand on votait sous Diouf le code pétrolier de 98, c'était pour demander, supplier même les compagnies étrangères de venir forer chez nous. Parce que, comme disent les Américains dans le milieu du pétrole, Sénégal was not a proven area. C'est-à-dire que ce n'était pas une zone prouvée qui nous montre qu'ici, la richesse est là, la richesse est établie. Non. Maintenant, après les découvertes de Sangomar, de Kayar, de Saint-Louis, on n'avait plus la raison d'être dans une position de non-proven zone. Donc, on est maintenant dans une zone prouvée. Et là, il ne fallait pas donner cette licence. Parce que, je vais te dire une chose, là, ce qu'on a donné à Total, à Rufisque, a éclaboussé le monde du pétrole.
Ah bon? Total et Rufisque?
Ah. Ouais, c'est Rufisque. De par sa position géographique, Rufisque est parti pour produire et du pétrole et du gaz. Vous savez, à Saint-Louis, on n'a pas encore trouvé du pétrole, ni Kayar. Sangomar, on n'a pas encore trouvé du gaz. Saint-Louis, c'est le gaz. Sangomar, c'est du pétrole. Et maintenant, il y a une zone qui est là, entre les deux, en jonction entre les deux, qui risque de produire et du gaz et du pétrole. Donc, la cible française est très claire. Il faut avoir sa part dans le pétrole sénégalais et la part du lion. D'ailleurs, ce qu'on a donné à Total, on lui a donné toute la main. Hein? Toute la main.
Mais c'est ça. Donc, peut-être qui est à l'origine de la démission de Tcherno Alassane Sall, non?
C'est-à-dire que Tcherno Alassane Sall, en fait, je n'ai entendu dire que sa démission, au fait, à l'origine, il y a l'affaire Petrotim. Parce que dans la même semaine de démissionner, on lui avait demandé de signer ou d'approuver le contrat, le transfert entre Tibis Corporation et Cosmos. Mmh. Il avait catégoriquement refusé. D'accord. Comment il a refusé? C'est parce que dans un entretien que j'ai effectué avec le journal LAS, c'était un entretien que malheureusement beaucoup de Sénégalais n'ont pu suivre. Au réveil à Dakar, les services de renseignement avaient déjà alerté la présidence sur un entretien avec le journal LAS. Ce jour-là, ils sillonnaient Dakar pour acheter les journaux de LAS. Il n'ouvrait même pas les journaux. C'est-à-dire qu'il prenait les paquets de journaux et il achetait les journaux. Là, avant midi, les gens appelaient là, où se trouvait le journal. C'était l'une des meilleures ventes. Sous Herman Alassane Sall, on l'appelle pour lui dire que, est-ce que tu as suivi l'entretien de Baba Edra avec le journal là? Il dit non, qu'il était en voyage, mais il est en route au bureau. Peut-être qu'il aura l'occasion de voir ça une fois arrivé au bureau. Il arrive à son bureau, il lit le journal. Attention, il convoque ses collaborateurs. Tous ses collaborateurs, c'est ce que j'ai cité, qui ont été entendus d'État, qui étaient au cœur du dossier. Thierno Alassane Sall se trouvait dans un bloc, dans un mur où les gens ne veulent plus, où ses collaborateurs ne lui disaient pas au fait la vérité. C'est à partir de là qu'il a suggéré de voir le dossier de Timis. Mmh. Quand il a demandé le dossier de Timis, et c'est lui qui parle, il dit que quand il a ouvert ce dossier, il y avait un plat extraordinaire, vide dans ce dossier. C'est à partir de là qu'il commençait à prendre ses mesures. Et quand on lui a demandé de signer l'approbation sur le transfert Timis
et Cosmos Énergie,
avec Cosmos, parce qu'il est le seul, selon le code pétrolier, qui détient ce droit. C'est-à-dire que ces transferts devront être approuvés par le ministre de l'Énergie, etc. Donc, quand Thierno avait refusé de signer ce transfert, dans la même semaine, il était en déplacement aussi, il revient, en déplacement, on l'appelle pour lui dire que bon, il y a un MOU qui a été signé, et après tu viens, tu signes pour approuver le truc là, entre Tatala. Mais il dit que mais il y a un problème. Moi, je n'ai pas encore bien lu la présentation de Total, les propositions de Total, il y a d'autres propositions qui sont là, je ne peux pas signer. Donc c'est à partir de là que le président a complètement disjoncté avec son premier ministre. Donc, les germes de son départ étaient déjà là quand il avait refusé d'approuver ce transfert entre les deux, Cosmos et Timis Corporation. Donc, là, c'était une fenêtre, suite à ta question. Mm-hmm. Donc, si on revient sur cette sortie de ATEPA, ATEPA nous parle ici de l'arrivée de Timis en 2009-2010 sous une autre casquette africaine pétrolière, ce qui n'avait rien à voir avec l'affaire pétrolière. Il faut qu'on arrête d'être des mormbagués ou vraiment où on est là surtout on se coule le nombril du monde. Il faut que les gens là arrêtent. Mmh. Ici on parle d'un dossier qui au fait a réellement démarré en 2012, même si un MOU a été signé en 2011. Mais le véritable problème, c'est l'arrivée de Petrotim, dont le frère du président est impliqué, qui nous intéresse, mais pas une histoire de tranquillité au Sénégal, dans un autre cadre, dans un autre domaine, qui est African Petroleum, un des membres de Timis Corporation.
D'accord. Merci, voilà. Grand, pour ces explications donc très claires. Voilà, comme d'habitude, avec toi, c'est toujours très court, parce que là, il va reste 5 minutes, voilà, et j'ai une émission directe qui doit commencer à 1h30. Voilà, donc je voudrais quand même poser une question, parce que c'est vrai que, je l'ai dit, hein, comme beaucoup l'ont dit, c'est le président Macky Sall, il est le gros problème en ce moment du Sénégal. Mais je voudrais savoir, juridiquement, Par exemple, ne serait-ce que BP qui verse entre 9 et 12 millions d'euros chaque année à Timis Corporation pendant 40 ans. Juridiquement, qu'est-ce que le Sénégal peut faire maintenant?
Bon, juridiquement, ça, cette question, il faut inviter un juriste qui va te parler. Tu sais, au Sénégal, c'est là où se trouve tout le problème. Tout le monde est connaisseur à tout. Moi, les aspects juridiques, je laisse ça aux juristes. Moi, je suis journaliste, comme je l'ai toujours dit. Quelqu'un avait dit à la télé que je suis allé avec lui. Non, ça, c'est pas de mon ressort. Ça, c'est pas de mon ressort de porter plainte à l'État, de porter plainte à l'IOSA. Non. Moi, je viens, je donne l'information. Pendant sept ans, j'étais seul dans le désert.
Tout à fait.
On m'a insulté, on m'a calomnié, on m'a attaqué. Mais je savais que ce que j'ai entre mes mains, c'était du solide, c'était des documents du gouvernement fédéral. Donc, mon ressource, ce n'est pas d'aller porter plainte, d'aller manifester, entre autres. Non. Mon ressource, c'est de venir à la radio, de venir à la télé et d'informer les Sénégalais avec des arguments solides. Et les gens doivent se réveiller quand même. Si je parle de Cosmos Énergie, Cosmos l'Américain, moi qui vis aux États-Unis, est-ce que je pourrais m'avancer à dénoncer des pratiques de Cosmos et vivre aux États-Unis calmement sans être poursuivi par ce groupe américain? Ça veut dire que dès le départ, les gens devaient se dire, mais attention, les compagnies pétrolières ne jouent pas de ça. Regarde la manière dont ils sont en train de démentir BBC. Ce qui te montre déjà dès le départ combien ils savent qu'ils sont fictifs. Comment? En général, dans ce milieu, moi je pars dans les forums, je pars dans ces forums, je sais comment ça se passe. Si une compagnie de renommée comme BP se fait attaquer par une presse, si BP réalise que cette presse raconte des histoires, la première chose que BP fait, c'est de demander au journal de retirer l'article et de présenter des excuses. Sinon, ils vont attaquer le groupe à la justice. Ça, c'est la première réaction. Mais BP se limite ici à démentir l'information. Cosmos, qui suit, Timis Corporation, qui suit, et tous. Timis et BP sont basés à Londres, là où vit BBC. Donc, leur réaction à partir de là montre des failles, montre que BBC a des solides entre ses mains. On ne parle pas de... Moi, étant journaliste, je ne peux pas dire de petites radios, de petits groupes de presse. Non, je ne peux pas le dire. Mais BP, quand même, est dans un quota extraordinaire. Un groupe de presse qui, son budget, dépasse largement le budget de toute une nation. C'est du lourd. Donc, tu vois, cette faiblesse, cet angle d'attaque, cet angle de vouloir démentir, mon étant journaliste, quand je regarde ça, je sais que déjà il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, on ne peut pas me dire que quelque chose ne va pas dans l'affaire Petrotim. Parce que BP ne peut rien m'apprendre sur l'affaire Petrotim. BBC ne peut rien m'apprendre sur l'affaire Petrotim. Parce que moi, quand je soulevais l'affaire Petrotim, j'avais des documents fédéraux. J'avais des documents du gouvernement fédéral américain. Où Cosmos était tenu de venir faire des rencontres, de présenter des dossiers qui montrent sa légitimité d'entrer dans le pétrole sénégalais. Donc, ce que j'avais entre mes mains, moi, ça, je savais que ça allait arriver. Maintenant, il y a une part de responsabilité des groupes du Sénégal. On ne peut pas tirer sur tout le monde. Cette part de responsabilité, la même. Si, en 2012, depuis le 19 juillet 2012, si la presse sénégalaise avait pris ce sujet au sérieux, traité ce sujet au sérieux, ils vont rendre, et le président de la République, Macky Sall, un grand service, ils vont rendre un grand service à la nation et à son image. Pourquoi je dis un grand service à Macky Sall? Donc, le 19 juillet 2012, Macky Sall venait juste d'arriver 3 mois, 4 mois au pouvoir. Et là, il avait toute la latitude de dire, attention, donc j'ai signé un décret sur un mauvais contrat. On rectifie et on avance. La presse s'amusait à avoir des animateurs qui invitaient des gens qui venaient montrer leur dimension intellectuelle, nous parler un bon français, nous parler un bon wolof, etc., pour se vendre auprès du président de la République. Alors qu'on devait inviter des hommes du terrain, des hommes qui sont là, qui ont étudié le document que j'ai entre mes mains pour faire une analyse profonde, afin d'aider le président de se rectifier. Il était à l'aube de son premier mandat. Deuxième service qu'il devait rendre à la nation, les autres investisseurs.
Lamine, excuse-moi, par contre,
il y a une souci.
On doit rendre l'antenne. Hein,
parce ah que... oui, c'est vrai, grand staff.
Je suis désolé.
Vraiment désolé, parce qu'on doit rendre l'antenne là, parce qu'il y a un direct qui se fait. Je te laisse conclure, mais 5 secondes, quoi. Et puis, voilà, c'est toujours court avec toi.
D'accord. Là, c'est bon. Je serai en vacances à partir de jeudi. Hein,
à partir de jeudi.
Donc, c'est bon.
On va se fixer, on prend une émission complète. Mais puis, par exemple, tel est où tu
toques. Inch'Allah. Merci encore. Merci encore pour tout et du courage.
Ben,
et
merci beaucoup à toi. Merci. Au revoir. Voilà, donc nous sommes arrivés au terme de l'émission. Et oui, je suis désolé avec Baba Aïdara. Je sais que vous avez vraiment envie d'écouter. Il a plein de choses à dire. Vraiment, c'est fini. Donc, Richard, juste pour justement rendre hommage à Baba Aïdara, j'emprunte une assertion à Martin Luther King qui disait « Pour se faire des ennemis, pas la peine de déclarer la guerre. Il suffit juste de dire ce que l'on pense. » Bonne continuation avec Étienne en direct depuis les amphithéâtres de l'Université de la Fac de Saint-Charles.
On nous a volé vite. Il ne manquait plus que ça. On n'a qu'à l'appeler partout.